Bonsoir, chers auditrices et auditeurs. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatial, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. Myriam Leland en studio et, COVID oblige, Gentiane La France au bout du fil. Bonsoir, Gentiane.
Allô, Myriam.
Comment vas-tu?
Ça va bien.
Un peu triste de ne pas t'avoir avec moi en studio, mais on est quand même heureuse de retrouver notre fidèle metteur en ondes, Jacques, qu'on n'a pas vu depuis le mois de mars dernier. Donc, ce soir à l'émission, Gentiane, tu m'as rendu la vie facile. Tu nous as préparé des très belles entrevues qu'on a déjà sur la console. Avec qui t'es-tu entretenue, Gentiane?
D'abord, j'ai fait un entretien avec Anouk Verviers à l'occasion du lancement de son exposition sur le site web d'À l'Est de vos empires, nos cousines podcasteuses qui se lancent maintenant dans la diffusion web en art visuel. Donc, Anouk qui a exposé à Regard l'année dernière et qui poursuit ses recherches sur l'esthétique conversationnelle. Donc, on a eu le plaisir de s'entretenir à propos de ce projet qui est très complexe et qui est très porteur de sens.
Oui, c'était très intéressant de la recevoir en entrevue. En deuxième partie d'émission, moi, je reçois notre toute première chroniqueuse de la saison, Cassandra Graham, qui va nous parler de la Biennale de sculpture de Trois-Rivières. Puis ensuite, on a une autre entrevue que tu nous as préparée, Gentiane. Avec qui cette fois-ci?
Mais je suis allée à la Chambre Blanche. Mais moi, je me promène avec mon enregistreur numérique. Je suis allée à la Chambre Blanche rencontrer Mélissa Pilon qui sort d'une résidence cette semaine. Demain, c'est sa présentation de résidence. Et Mélissa Pilon part à la recherche de photographies de foule et elle les rassemble. Donc, on a parlé de sa démarche là, qui s'est d'abord concrétisée dans un livre, une maquette, et puis là, elle poursuit ses recherches là, de photographies là, qui peuvent venir du 19e siècle jusqu'aux années 2000. Donc, c'est très, très varié et on peut voir qu'il y a beaucoup de similitudes et de différences entre différentes foules. C'est très révélateur, mais elle les sort tout le temps du contexte. Donc, très intéressant.
Ah ben, on entend la passion dans ta voix. J'ai vraiment hâte d'entendre ça. Ben, en fait, je vais pas mentir, je l'ai déjà écouté l'entrevue, mais j'ai hâte de vous présenter ça. Puis Gentiane, tu nous as également préparé une sélection musicale. On a bien sûr très hâte de retrouver notre fidèle mélomane Simon Roy, mais il est en vacances, bien mérité en ce moment. Alors, ce soir, Gentiane, tu nous présentes la musique électro de la Britannique Kelly Lee Owens. C'est bien ça?
Oui, 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 c'est un album qui vient tout juste de sortir. Je la connaissais pas, puis je suis vraiment tombée en amour avec ces beats électro qui sont pas si dansants que ça, un peu plus planants, mais quand même bien soutenus. Et puis c'est sorti le mois dernier, là, donc on écoute ça ce soir, cet album-là qui s'appelle
Inner Songs, oui. Donc, merci Gentiane, j'ai déjà hâte de te retrouver la semaine prochaine. On se laisse pour une courte pause audio et ensuite, on t'entend, Gentiane, en entrevue avec Anouk Verviers.
Thank you. Bonjour, Anouk Verviers.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Oui, ça va bien. Je suis contente de te revoir.
Oui.
On t'avait reçu l'année dernière pour le projet que tu présentais à Regard, le projet au milieu des bureaux empilés.
Mm-hmm.
Et maintenant, c'est pour un tout nouveau projet qu'on te reçoit ici à l'aérospatial. Un projet qui s'appelle l'Institut pédagogique d'esthétique conversationnelle.
Exact.
Et ben d'abord, d'où vient l'idée de ce projet-là? J'ai l'impression qu'il y a comme une continuité un peu avec les recherches que tu avais entamées, mm-hmm. avec au milieu des bureaux empilés, mais comment t'es venue l'idée d'avoir quelque chose de plus institutionnalisé qui se détache de ce projet-là?
Ouais, c'est clairement en continuité. Dans le fond, c'est basé sur une technique de dessin des conversations que j'ai commencé à développer quand j'étais dans les écoles, donc pour au milieu des bureaux, par nécessité, je pense, parce que je sortais des conversations avec les jeunes, puis j'avais besoin d'un outil pour savoir vraiment comment ça s'était passé au-delà de juste mes impressions, pour bien comprendre comment je pouvais adapter mes interventions à la rencontre après, qui avait moins parlé, qui avait de la difficulté à s'inclure dans le groupe, etc. Puis c'est venu naturel que la façon pour moi de comprendre ces choses-là, c'était de dessiner. Puis la technique s'est précisée, j'ai rajouté des choses, j'ai réfléchi, etc. Puis j'avais comme un besoin d'affirmer ça comme une forme de connaissance qui est valide, puis pas juste comme une forme de documentation d'expérience ou pas juste comme une forme de faire de façon de créer des œuvres d'art, en fait. Puis c'est une réflexion sur la façon dont on valorise les connaissances puis les codes qu'on a besoin presque comme société pour dire « Ah, ça, c'est une connaissance qui est valide, je vais écouter, ça, c'est une connaissance qui est « Ah, c'est moins rationnel, c'est plus instinctif et tout », puis instinctif, comme automatiquement, on valorise moins ce type de connaissances-là. Fait que c'est un peu un jeu de dire « Ah, ben je vais créer une institution parce que c'est ça » que ça semble prendre pour que les connaissances soient valorisées puis pour que les choses soient entendues.
Donc pour rendre un peu la démarche plus sérieuse aux mm-hmm. yeux des autres.
Exact, ouais.
Parce que tes yeux, ils
sont aux yeux des autres domaines, exact.
Des
ouais,
autres
moi,
domaines.
Elle a toujours été sérieuse, cette
oui.
démarche-là, c'est clair.
Et c'est une démarche sérieuse, mais en même temps, dans ce projet-là, l'Institut pédagogique d'esthétique conversationnelle, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui relève un peu de la fiction.
Mm-hmm, mm-hmm.
Donc, il y a quelque chose de sérieux, mais en même temps, il y a une espèce de décalage, de transition aussi vers quelque chose d'un peu plus fictionnel.
Mm-hmm. Ouais, clairement. Je crois que c'est le premier projet dans ma pratique qui est pas basé sur des enjeux directs, politiques, dans la société, avec des gens externes aussi et tout. Mais ça reste pour moi quand même un propos qui est très politique parce que c'est sur nos conversations, la façon dont on interagit, puis comment ça peut être une source de changement social. Mais c'est clair que pour moi, c'est une réflexion critique, fait que j'ai un deuxième degré de dire, oui, je réfléchis sur ces codes-là, scientifiques, institutionnels et tout ça, mais je veux pas les adopter non plus à 100%. Je veux les critiquer, je veux les pousser, je veux montrer à quel point ça peut être artificiel et tout ça. Fait que ça devient fictionnel c'est un détournement, en fait.
Mm-hmm. Et donc, un projet fictionnel, mais aussi virtuel.
Mm-hmm.
C'est un projet qui est, pour le moment, entièrement diffusé en ligne.
Exact.
En collaboration avec nos cousines de l'Est de vos empires. Donc, une très belle initiative. Et c'est, on entre dans cet espace virtuel. Qui est une modélisation 3D
mm-hmm.
d'un bureau de recherche
oui.
de l'institut en tant que tel.
Exact, c'est une modélisation 3D de l'institut avec son hall d'entrée grandiose, sa réception et ses bureaux de recherche. Exact.
Et la circulation dans cet espace virtuel là, c'est pas nous qui la faisons. Mm-hmm. C'est le site web qui nous l'impose.
Exact.
Et pourquoi tu as fait ce choix-là d'avoir un parcours très, très, très contrôlé, très dirigé, sans laisser la liberté aux spectateurs, mettons, d'aller se promener?
Mm-hmm. Pour moi, c'était important de distinguer ça des jeux vidéo. Je voulais que ce soit une expérience qui était... Je cherche toujours dans mes projets, autant en personne quand je suis avec des gens... que en exposition, un équilibre entre le fait de déstabiliser les participants ou le public assez pour un peu briser leur rapport à l'œuvre avec lequel ils arrivent, pour les déstabiliser, pour créer une sorte de sensibilité, un espace disponible, mais en même temps d'avoir aussi un sentiment de confort qui fait qu'ils restent disponibles puis ils sont pas juste dans l'impression de choc et de déstabilisation. Fait que pour moi, d'imposer un parcours, c'est une façon de déstabiliser un peu le spectateur, puis qui tombe dans un état où il ou elle se laisse porter plus face à l'œuvre.
Et il y a cette... On continue dans cette expérience virtuelle, donc il y a cette modélisation 3D qui est un peu le centre de l'expérience, mais l'expérience se fait... comme si on assistait à un processus,
mm-hmm.
comme si on était devant l'ordinateur d'un chercheur ou d'une chercheuse de l'institution, en l'occurrence Anouk Verviers, et qu'on assiste à différents procédés de fabrication de l'information, de fabrication de l'expérience esthétique. C'est important pour toi d'avoir cette espèce de deuxième niveau de lecture dans, mm-hmm. dans l'expérience virtuelle?
Oui, c'est important, mais c'est une façon, pour moi, c'est vraiment des recherches que j'ai menées pour vrai. L'Institut, elle est fictive dans sa forme, elle est virtuelle, mais c'est vraiment l'algorithme qui dessine les conversations, je l'ai développé pour vrai. J'ai appris la programmation Python pour ce projet-là. J'ai tout programmé moi-même. J'ai vraiment, pour vrai, si les travaux dont je parle dans la conférence que j'ai fait avec à l'Est aussi, ce sont des travaux que j'ai réalisés pour vrai. Et donc, pendant tout ce travail-là, qui est un travail qui est processuel, qui est plus en arrière-scène, moi, mon paysage, c'était mon ordinateur avec ces fenêtres-là de texte dans lesquelles je venais coder les données que je venais de générer et tout ça. Fait que pour moi, ça s'est fait de façon naturelle de communiquer avec le spectateur à travers ce paysage visuel-là aussi que j'avais devant moi tout le temps que je travaillais.
Et dans ce paysage virtuel, on rencontre bien sûr ces diagrammes que tu crées à partir de conversations, et on rencontre aussi des extraits de conversation,
mm-hmm.
Mais ils ne sont pas diffusés donc oralement, mais à l'écrit.
Exact.
Pourquoi?
Parce que pour moi, c'est une façon de rendre ça... quand on parle de conversation, ça devient rapidement narratif et selon moi, selon ma perception, rapidement anecdotique aussi, dans le sens qu'on va s'intéresser à ce qui a été dit, par qui, dans quel contexte. Puis moi, mon intention, c'est vraiment de sortir de ça pour amener le regard sur la forme de l'échange. Puis je pense que si j'avais associé ces textes de fiction-là à des voix, on les aurait vus comme les expériences de quelqu'un d'autre, alors que quand c'est à l'écrit, on peut plus s'identifier, puis ça prend plus un caractère qui est universel.
Intéressant. On va prendre une pause musicale et au retour, on continue cette conversation avec Anouk Verviers. de retour avec Anouk Verviers qui nous parle de son projet l'Institut pédagogique d'esthétique conversationnelle qui est actuellement diffusé par nos cousines d'à l'Est de vos empires. Et donc ce projet de recherche, Anouk, moi je t'ai vu là, dans le cadre de mon travail, on t'a accueilli l'année dernière pour une résidence, une exposition. Je t'ai vu faire ces dessins qui schématisent un peu des conversations de groupe, donc des dessins circulaires avec des lignes graphiques qui viennent se faire rejoindre différents points selon un système que tu as établi toi-même. Et là, dans ce projet web de ces dessins, il y en a des centaines, c'est pas tout toi qui les dessinais, c'est une autre façon de faire. Là.
Exact, ouais. C'est des dessins qui sont faits par l'ordinateur directement. Donc, j'ai pris la technique de dessin que j'utilisais, puis j'en ai fait un modèle mathématique pour la communiquer à l'ordinateur, si on veut. Puis l'ordinateur, lui, après ça, prend ce modèle-là, puis dessine toutes les combinaisons possibles. Mais des combinaisons possibles, il y en a des centaines de milliards, en fait. Là, je l'ai calculé combien il y en a. Puis, ça fait que c'est pas possible de toutes les dessiner. Donc, j'ai dû travailler sur une façon de faire un échantillon de dessin qui représente aussi toute la variété des compositions possibles visuelles. Donc, l'ordinateur, on a dessiné 500 pour l'Institut. C'est les 500 qu'on voit dans le projet à différents moments. Puis, dans le fond, c'est pas des conversations qui ont existé réellement. C'est des conversations qui pourraient exister parce que mathématiquement, c'est des structures qui sont possibles.
Et donc on parle de conversations qui n'ont pas existé. Et dans le quand on navigue dans ce projet d'Institut pédagogique d'esthétique conversationnelle sur le site web, on découvre des extraits de conversations. On parlait de cet espace qui devient un peu fictionnel dans ton projet de recherche. Mm-hmm. Donc, ces extraits de conversation-là, ils n'ont pas existé, en fait.
Non, c'est des fictions que j'ai rédigées à partir des dessins parce que mon postulat politique, puis ce que je me suis rendu compte à travers mes projets puis que je porte à travers ma pratique, c'est l'idée que les conversations, leur pouvoir politique, leur pouvoir de changement social, il est pas dans le contenu en tant que tel, mais plutôt dans l'impression que les gens ont quand ils ou elles sortent de la conversation. Comment ils ou elles se sont sentis, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'affect et tout, puis c'est ces choses-là, selon moi, qui font qu'on peut être plus sensible à d'autres points de vue, évoluer, aller plus vers des nouvelles façons de vivre ensemble et tout. Fait que je voulais mettre ça en évidence avec des fictions qui sont parfois autobiographiques, parfois pas, qui sont inspirées des structures. Fait que je me disais vraiment, si moi j'avais vécu cette conversation-là, qui est représentée, comment je me serais sentie, comment ces gens-là l'ont vécu, etc.
Donc on a différents exemples, par exemple de conversations qui vont en profondeur, de conversations harmonieuses, de conversations où on retrouve de la fiction.
Ouais.
Et toi, Anouk Verviers, ce qui s'intéresse, c'est l'effet que ça fait de manière affective. Et c'est là qu'on retrouve cette recherche esthétique dans ta pratique.
Ouais, pour moi, je fais un pont que j'ai fait quand même tôt dans ma vie entre comment je me sens en sortant de certaines conversations puis comment je me sens en sortant de certains contacts avec des œuvres d'art. Pour moi, c'est une expérience qui est vraiment très proche. C'est deux expériences qui peuvent changer nos perceptions, qui peuvent bouger la façon dont on voit le monde, autant les conversations que les œuvres d'art. Donc, je me suis dit, si on utilise l'esthétique pour parler des œuvres d'art, alors ce serait vraiment intéressant d'utiliser l'esthétique pour parler des conversations.
Et moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est que tu mises vraiment sur le après. Donc, ce recul-là, il est nécessaire?
Oui, pour moi, oui. Souvent, les extraits commencent par depuis plusieurs jours, en sortant, des choses comme ça. Je pense que l'introspection dans une conversation vient par après. Parce que quand on est dans la conversation, on est dans une forme de représentation, on fait attention à notre ego, à notre subjectivité, puis avec le temps, ces choses-là tombent, puis notre perception de l'échange, puis de nous-mêmes dans l'échange aussi, va changer.
Et on peut la rationaliser ou on peut la rempirer dans la tête, au milieu de la nuit, en pleine insomnie.
Exact, mais c'est ce qui reste après. Oui. Fait que peut-être ça nous a marqué, puis peut-être ça va changer la façon dont on agit dans le futur.
Et est-ce que ça serait la même chose pour l'expérience qu'on vit à partir des œuvres d'art? C'est ta perception aussi. Donc, on va au musée, c'est pas tant au musée que ça se passe que lorsqu'on sort du musée et de réfléchir à quelles traces ont laissé les œuvres sur nous?
Ouais, pour moi, oui, c'est clair que c'est comme ça que je le vis, ouais.
Et donc, ce projet, l'Institut pédagogique d'esthétique conversationnelle à Anouk-Verviers, c'est, on en parlait, c'est un projet de diffusion web, donc c'est une œuvre d'art web. Et en faisant l'expérience de cette œuvre-là, elle est divisée en 4 tableaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la façon dont tu as réfléchi cette division-là en 4 tableaux?
Pour moi, c'est une déconstruction. Plus on avance dans les tableaux, plus les images deviennent...
chaotiques.
Oui, exact. Plus ça se décompose, puis à la fin, on finit, on est seul avec une photocopieuse et on comprend plus trop où on est, il n'y a plus d'espace, plus de notion architecturale. Donc, c'est une déconstruction des repères visuels. Je voulais que au début on se sente dans un connu, plus une reproduction de code qu'on connaît, qu'on reconnaît, puis que plus ça va, plus ça se déconstruit, mais ça change pas notre sentiment de confort dans l'œuvre parce que plus ça va, plus on comprend comment ça fonctionne aussi.
Donc ce projet-là n'est pas seulement qu'un projet d'art web, il y a aussi une volonté d'aller rassembler une certaine communauté de membres.
Exact.
Et pourquoi et comment?
Ben parce que travailler sur les conversations, c'est clair que je veux en discuter. Fait que c'est une volonté de rassembler des gens qui ont cette même conviction-là, que les conversations peuvent amener un changement social, puis que la structure de ces échanges-là est primordiale dans cette démarche-là. Donc, c'est possible de devenir membre de l'Institut. Il y a une cotisation symbolique de 10 $ annuellement. Puis après ça, moi, je vais envoyer une infolettre trimestrielle. Puis dans cette infolettre-là, il va y avoir des travaux de l'Institut, des réflexions, des traces de ce qui se passe, puis des opportunités d'entrer en contact aussi éventuellement.
Donc, pour être soit cobaye, soit chercheur?
Exact, oui.
Et j'imagine que tu as aussi l'intention, parce que, bon, on parle d'un projet en art visuel, les arts visuels sont rendus un champ très, très large de nos jours.
Ouais, ouais.
Mais j'imagine aussi qu'il y a une intention d'aller peut-être toucher d'autres disciplines pour faire des ponts avec ces disciplines-là?
Clairement, oui, clairement. Puis pas des disciplines qu'on s'attend nécessairement. Ça m'intéresse beaucoup de travailler avec des gens qui viennent des mathématiques, des sciences des données, des gens qui viennent de la biologie, autant qu'avec des gens qui viennent des sciences humaines, des sciences sociales, de l'anthropologie, etc. C'est vraiment ouvert. Pour moi, c'est pas une question de discipline, c'est vraiment une question de conviction par rapport aux conversations puis au rôle que ça joue dans nos vies.
Ben, merci beaucoup, Anouk-Verviers, pour ce bel entretien.
CKRL 89.1.